Place publique.
L'heure de la quatrième révolution industrielle a sonné. Place aux objets connectés, aux usines dites intelligentes. Les entreprises s'y préparent, mais pas seulement. Les écoles et les universités proposent elles aussi des formations adaptées à ces nouveaux enjeux. Épreuve que l'industrie 4.0 est à nos portes. Le groupe Swatch et l'Oxem, le centre suisse d'électronique et de microtechnique à Neuchâtel, ont annoncé le lancement d'un système 100% suisse capable de connecter les objets. On va se demander si l'horlogerie suisse ne prend pas trop tard ce virage de la montre intelligente. Le Jura veut son théâtre. Les autorités ont donné cette semaine leur feu vert à la construction du bâtiment sur un terrain centré près de la vieille ville de Delémont. De leur côté, les promoteurs du projet s'activent pour réunir l'argent manquant. Reste à savoir jusqu'où aller pour séduire les investisseurs. Et on se réjouit aussi de découvrir l'humour 4.0 signé Jérôme Moutet. Place publique, on est ensemble jusqu'à 19h sur les trois radios de l'Arc Jurassien, RJB, RTN et RFJ.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'industrie 4.0. Après la vapeur, l'électricité et Internet, place aux usines dites intelligentes et à l'Internet des objets. Pour mieux comprendre et maîtriser les enjeux de ce nouveau virage technologique, l'Université de Neuchâtel lance l'automne prochain un master dans le domaine de l'innovation. L'objectif est de former ceux qui sauront conseiller les entreprises, les administrations ou les organisations confrontées à cette quatrième révolution industrielle. On en parle avec vous, Daniel Kraus. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez le pôle de propriété intellectuelle et de l'innovation à l'Université de Neuchâtel et êtes professeur de droit. C'est vous qui, si on veut bien, dirigez ce master. Alors, un master centré sur l'innovation, c'est apparemment une première en Suisse. Et selon vous, ce n'est pas un hasard que ce soit à Neuchâtel ?
Non, ce n'est pas un hasard que ce soit à Neuchâtel, parce que dans le canton et dans tout l'arc jurassien, nous vivons l'innovation tous les jours. Et je dirais, nous avons une tradition d'innovation. D'innovation, que ce soit dans les microtechniques, que ce soit dans l'horlogerie, ou que ce soit de manière générale dans le développement de la région. J'aime bien prendre comme exemple la ville de La Chaux-de-Fonds, qui avait aucune raison à l'origine de se développer comme elle s'est développée. Et parce qu'on avait des gens innovants, des gens qui ont été extrêmement créatifs, ont pu développer une ville industrielle à 1000 mètres d'altitude. Et on vit ça, on a ça, je dirais, dans nos gènes. Et c'est pour ça que je dirais que c'est presque normal, effectivement, que c'est à Neuchâtel et dans l'arc jurassien qu'un tel master a pu se développer.
Alors, quand on parle d'innovation, on pense plutôt à des enjeux techniques au niveau de l'informatique, de la mécanique, des sciences naturelles. Mais l'innovation entraîne bien d'autres enjeux juridiques, économiques, sociologiques, d'où justement votre formation.
Exactement. C'est la réflexion qui est à l'origine de ce master. On a une offre dans le domaine technologique, de nouveau à Neuchâtel et dans l'arc jurassien, qui est énorme, avec des hautes écoles, avec des entreprises, avec des personnes qui travaillent dans le transfert de technologie. Mais ce qui manquait encore, c'était l'aspect des sciences sociales, des sciences humaines liées à l'innovation. Et là, on a pensé qu'il y avait peut-être un plus que l'université pouvait offrir à toutes ces institutions, que ça soit les entreprises, que ça soit la HARC, les PFL, l'Oxem, le CPLN, etc. Et dans le domaine des sciences humaines liées à l'innovation.
Alors vous allez faire réfléchir vos étudiants sur tout ce qui peut favoriser l'innovation, tant au niveau politique que dans les entreprises, mais aussi un questionnement sur les limites de cette même innovation.
Oui, je crois que c'est important et c'est la réflexion qu'on a eue avec toute notre équipe. Donc c'est un master qui est vraiment interdisciplinaire. Donc si vous m'interviewez ce soir, je suis très honoré. Mais on a beaucoup de monde qui est derrière ce travail qui est vraiment interdisciplinaire, que ce soit des économistes, des sociologues, des juristes ou des scientifiques. Et l'idée, c'est effectivement de réfléchir un peu d'un autre point de vue, comment l'innovation est reçue par les consommateurs, qu'est-ce qui fait qu'une région peut être innovante, qu'est-ce qui fait qu'une région peut-être ne sera plus innovante, et c'est des éléments qui sont importants, je pense, pour les entreprises, pour les organisations à l'avenir, qui vont être confrontées à des changements de société liés à ce qu'on appelle Manufacturing 4.0, ou à la quatrième révolution industrielle. Et on a besoin de questionnements dans le domaine juridique, dans le domaine social, dans le domaine économique. Et de nouveau, c'est ça qu'on essaie d'apporter aux étudiants. Et on pense que c'est nécessaire pour les entreprises, pour l'administration, que ce soit l'administration cantonale ou bien les administrations fédérales qui s'occupent de l'innovation.
En gros, si tout va bien, cette quatrième révolution industrielle devrait nous permettre de nous tourner les pouces pendant que les machines entre elles communiquent pour mieux produire. On pourra un peu plus prendre du bon temps. C'est peut-être une caricature, mais néanmoins, voilà un aspect sociologique qui peut être lié à cette fameuse quatrième révolution industrielle, la redéfinition du travail, de l'emploi, du rôle de l'être humain.
Oui, tout à fait. Alors, se tourner les pouces, c'est pas forcément ce qu'on aimerait essayer de pousser avec ce master, mais effectivement de réfléchir aux changements sociétaux qu'on va vivre et qu'on vit déjà maintenant. Quel est l'effet sur l'emploi et l'effet sur l'emploi est, on en parle beaucoup. Hein. D'un côté, on craint du chômage. D'un autre côté, on sait qu'il y aura des nouveaux jobs qui seront mis sur le marché dont on ne connaît même pas encore la dénomination. Et puis, probablement qu'il y aura des effets sur la façon dont on travaille. Les discussions qu'on a eues il y a 8 mois sur le salaire de base inconditionnel, c'est des questions qu'on va de nouveau devoir se poser. Et le but, c'est de stimuler l'innovation, stimuler la créativité des gens et pas forcément de les aider à se tourner les pouces.
Est-ce que vous pensez que cette fameuse quatrième révolution industrielle fait plus peur qu'autre chose? Il y a cette intelligence artificielle dont on parle beaucoup, l'être humain a peur d'être dépassé. Est-ce que vous allez aller jusque-là, jusqu'à cette quasi-science-fiction?
Alors évidemment, on a toujours peur. On a eu peur avec les locomotives à vapeur. On a peur avec les développements technologiques. Et il faut voir les deux côtés de la médaille. D'un côté, il y a des défis, et d'un autre côté, il y a des chances énormes. Et c'est ça ce qu'on essaye d'examiner, d'un côté par les enseignements, mais d'autre côté par des recherches que ces enseignements vont également entraîner. Et c'est important de s'y préparer. Évidemment, on a peur si on n'est pas préparé. Mais c'est pour ça qu'il faut étudier, c'est le rôle de l'université, de prendre le temps d'étudier ces questions et de faire des propositions aux politiques, aux industriels, aux organisations qui s'intéressent à l'avenir de la société, que ce soit la société de notre région ou la société suisse ou de manière générale. Et si on prend le temps d'y réfléchir suffisamment tôt, et de proposer des solutions possibles, des alternatives possibles, alors on prépare le mieux le futur.
Pour conclure, le CPLN, hein, c'est un centre de formation professionnelle à Neuchâtel, vient de lancer une sorte d'usine 4.0 version modèle réduit pour ses étudiants. Alors on comprend bien le principe, ils vont pouvoir découvrir un peu cette logique de production interconnectée. Vos étudiants à vous, à l'université, qui ne sont pas des techniciens mais plutôt des scientifiques, juristes comme vous les avez dit, économistes, etc. Ils vont travailler sur quoi? Vous allez les emmener sur quel terrain?
Alors le terrain, on l'a dans la région. On a, je vous ai parlé de la Chaux-de-Fonds, on a donc un terrain urbain ou un terrain cantonal qui est déjà très intéressant à étudier. On a des terrains beaucoup plus microéconomiques dans les entreprises. On a des terrains parmi les chercheurs scientifiques, aussi dans le domaine même des biotechnologies, pas forcément dans la microtechnique. Donc le terrain, on l'a chez nous. Et puis, à l'avenir, on peut aussi étudier d'autres terrains au niveau, plus international. Si on veut étudier des questions liées à ce qu'on appelle l'innovation frugale, par exemple, on peut s'inspirer, voir ce qui se fait ailleurs. Évidemment, on regarde encore toujours ce qui se fait aux États-Unis. Donc, les terrains, on les a, encore une fois, on les a chez nous. Et puis on ouvre les yeux. L'idée, c'est vraiment d'être interdisciplinaire, de comprendre le monde qui nous entoure, de pas réfléchir en compartiment, mais de réfléchir en dehors de chacun de nos compartiments, que le juriste comprenne la manière de réfléchir du sociologue, que le sociologue comprenne la manière de réfléchir du juriste et que l'économiste aussi comprenne le monde qui l'entoure. Jusqu'à présent, on a beaucoup trop réfléchi chacun dans ses catégories et le plus de ce master, c'est vraiment de encore approfondir nos connaissances dans nos domaines de spécialisation.
Mais s'ouvrir aussi aux autres disciplines.
Exactement, de comprendre le monde qui nous entoure.
Merci infiniment, Daniel Kraus. On rappelle donc que vous dirigez le pôle de propriété intellectuelle et de l'innovation à l'Université de Neuchâtel. Vous dirigez donc ce master qui va être lancé l'automne prochain. On se réjouit d'en savoir plus sur cette formation. On vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Merci d'avoir été dans Place Publique.
Merci à vous.
Gabriel Devecq.
Nous parlions tout à l'heure, il y a un instant, d'innovation. Eh bien, on y reste. On va parler maintenant du projet 100% Suisse, lancé par le Swatch Group et le Centre Suisse d'électronique et de microtechnique à Neuchâtel, le XEM. Il s'agit d'un système capable de connecter les objets entre eux, à commencer par des montres. Avant d'entendre notre invité, Jérôme Moutet, c'est à vous, il n'en fallait pas moins pour titiller votre humour connecté et contagieux, bien sûr.
Oui, bonsoir Gabriel, vous allez bien ?
Mais ça va, merveille.
Vous êtes bien assis, tout va bien ?
J'espère ne pas tomber de ma chaise.
Oui, bah profitez, ça ne va pas durer. Non, franchement, Gabi, vous permettez que je vous appelle Gabi ?
Avec plaisir, il n'y a que vous qui pouvez.
Bah, de toute façon, c'est trop tard. Hein. Et vous connaissez la chanson, hein. Gabi, 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 l'ami des tout petits, tourne le bouton tout rond, et je chanterai des chansons.
Là, vous vous échappez du thème.
Promis Gabi, j'arrête la drogue. Alors aujourd'hui, vous me demandez de faire une chronique sur un des trois thèmes. Le premier, c'est la quatrième révolution industrielle. Les écoles s'y préparent. Alors attendez, Gabi, il y en a qui n'ont même pas compris qu'il y avait eu une première révolution industrielle. Alors comment vous voulez parler de la quatrième ? Par exemple, vous croyez vraiment que les Esquimaux en sont à la quatrième ? Hein, déjà qu'ils ont bientôt plus de glace à cause de ça. Là-bas, c'est l'ère glaciaire. Vous savez, ce grand froid qui vous pétrifie comme quand vous êtes, Gabi, à bord de votre voilier sur le lac de Neuchâtel, à un nœud de moyenne depuis des heures. Vous voyez comment ?
Oui, très bien.
Bon, ces frissons de peur, dus au froid, comme quand un fan de Fribourg-Gotteron regarde le classement de son équipe. Ah, horreur malheur ! Bref, tout ça pour vous dire que ce premier sujet ne m'inspirait guère. Alors, après, je passe au troisième sujet, le théâtre du Jura. Alors ça, c'est comme les extraterrestres ou alors comme une érection dans une maison de retraite. Tout le monde en parle, mais on n'a jamais rien vu. Il n'y a même pas le premier coup de pioche qui a été donné pour ce théâtre. Alors tout le monde s'en fout et ça tombe bien, ça ne m'inspirait guère non plus. Restait donc le deuxième sujet. Attention, accrochez-vous. Le groupe Swatch veut connecter lui-même les objets en collaboration avec le XEM et créer un nouveau système d'exploitation indépendant pour pouvoir connecter les montres avec d'autres objets.
Et okay, on y est, enfin,
oui,
enfin.
On y est. Alors Gabi, on s'excuse déjà envers vos auditeurs. Hein. Ils doivent être comme moi, ils n'ont rien compris, car n'oublions pas, Gabi, qu'à cette heure-là, vous avez le public d'Alain Morisot. Vous savez quand même. Alors je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà vu dans le public de Morisot une personne avec un smartphone ou tout autre objet arrivé sur le marché après 1960 ?
Bien sûr, évidemment.
Non, vous faites
offense à nos auditeurs.
Justement pas. Hein. À moins qu'il y ait des déambulateurs connectés. Mais ça, j'ai encore jamais vu. Bref. Et on embrasse, Gabi, évidemment, toutes les personnes qui regardent Alain Morisot et qui nous écoutent. Hein. Qu'est-ce que vous voulez ? Ma foi, personne n'est parfait. Donc, j'ai choisi ce deuxième thème qui, pour moi, est du chinois. La seule chose que j'ai retenue, c'est qu'avec ce système d'exploitation, il y aura une seule mise à jour par an. Alors moi, j'ai une question. Swatch veut connecter ses montres et d'autres objets avec ce système, on est d'accord ?
Oui.
Bon. Comment vont-ils faire avec une seule mise à jour par an, alors qu'en une année, on change deux fois d'heure ? Réponse, Gabi ?
Eh bien, c'est une question qu'on va peut-être poser à notre invité.
Justement, comme tout le monde, vous n'en savez rien. Donc, logiquement, il y aura deux mises à jour par an, ce qui veut dire une augmentation de 50% de mises à jour par rapport à ce qu'il nous a annoncé. Du coup, Gabi, une idée me vient. On loue le groupe Swatch dans le monde entier. Eh bien, j'ai décidé de m'en inspirer. C'est donc officiellement, et je terminerai avec ça, que je vous demande également à vous, Gabi, en me basant sur Swatch Group, une augmentation de salaire de 50%. Merci d'avance.
Je crains que...
Place publique.
Je retiens la demande, mais c'est peut-être pas la bonne porte à hein, laquelle vous frappez. Jérôme Moutet, merci beaucoup d'avoir interprété ces trois thèmes et de nous avoir fait part de vos préférences. On va bien sûr accueillir notre invité, donc vous avez bien compris le thème de cette prochaine discussion, donc la création d'ici fin 2018, c'est bientôt, d'un système 100% suisse qui permettra la transmission de données entre petits objets connectés, à commencer par les montres, le tout sans dépendre des géants américains du secteur comme Google et Apple. Peu de détails ont filtré, donc on ne sait pas grand-chose, désolé Jérôme Moutet. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il s'agit, ce qu'on sait malgré tout, c'est qu'il s'agit d'un système d'exploitation Swiss-made, capable de fonctionner avec une autonomie énergétique sans commune mesure, donc pas trop besoin de chargeur, tout en garantissant un niveau de sécurité jamais atteint. Alors avec nous pour en parler de cette annonce, Xavier Comtesse, fondateur du laboratoire d'idées Watch Thinking et ancien directeur d'Avenir Suisse, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on a pu vous lire et vous entendre souvent ces dernières années. Pour vous, l'horlogerie suisse s'est fourvoyée en se lançant par corps et âme dans la montre connectée. Est-ce que l'annonce de cette semaine vous fait changer d'avis ?
Ah ouais, c'est une formidable annonce. Oui, oui, c'est une réponse. Enfin, je dirais, on se réveille. Mais vous vous souvenez, quand on avait, il y a une trentaine d'années, cette question avec la quartz, on avait aussi mis pas mal de temps avant de se réveiller. Et après, on a gagné. Donc, je suis plein d'espoir parce que je crois non seulement à Marin, vers Neuchâtel, on a une technologie que personne d'autre a, c'est-à-dire vraiment cette technologie de pouvoir faire marcher avec très peu d'énergie des objets. Ça, c'est quelque chose qui est très suisse. On sait faire ça et on a de l'avance sur les Californiens. Parce qu'à Marin, ils font de l'électronique pour tout le monde, hein, le monde entier. Donc, on a une avance là-dessus. Deuxième chose, Swatch a aussi une avance sur les piles. Et troisième chose, si on fait un système d'exploitation suisse, bon, on est les rois, quoi. On est de retour. On est bec.
Jérôme Moutet disait, c'est du chinois, c'est difficile à comprendre, surtout pour peut-être les personnes un peu plus âgées. Dites-nous, en mots simples, à quoi il faut s'attendre d'ici la fin 2018 ? On ne sait pas grand-chose sur ce système d'exploitation.
Ben, ce sera un système qui ira sur cette couche de l'électronique. Vous voyez, l'électronique, elle a besoin d'une couche de software pour pouvoir discuter, pour pouvoir parler, pour pouvoir communiquer, en fait. Hein. Et alors, on a eu Internet, on voit bien, Internet, tout le monde a essayé, c'est une communication entre les êtres humains. L'Internet des objets, c'est une communication des objets à objets. Hein, c'est quand une voiture parle à une autre voiture. C'est quand ma clé ouvre ma voiture. C'est quand mon pacemaker est, vous voyez, pour les personnes âgées, quand mon pacemaker est réglé par mon médecin à distance. Donc, voilà, c'est ça. Hein. Donc, on va avoir très rapidement énormément d'objets qui seront connectés les uns aux autres.
Avec un potentiel de connexion entre cette fameuse montre que Swatch va bien sûr mettre au point et la santé de son porteur.
Oui, alors ça peut être des questions de santé. Vous voyez, dans le cas de Swatch, l'intérêt pour la montre, c'est une chose, mais il y aura 50 milliards d'objets connectés. Hein. Donc c'est plus que, je sais pas, 500 millions de montres qu'ils ont vendues. Ils en ont vendu 400 millions, je crois. Vous voyez, et c'est 50 milliards hein, le nombre d'objets. Donc on rentre dans une échelle qui n'a rien à voir. Pour nous, si ça marche, si ce système d'exploitation est réussi, c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur pour tout le Jura.
Xavier Comtesse, qu'on comprenne bien, vous parlez de milliards d'objets connectés, si je vous ai bien compris. Ça veut dire que c'est absolument mondial, global. C'est-à-dire que qui dit connecté dit compatibilité. Or, ici, on parle d'un système indépendant hein, des géants américains du secteur. Est-ce que c'est bien raisonnable de ne pas travailler avec la Chine ou les États-Unis et de vouloir faire cavalier seul en Suisse ?
Non, mais ça dépendra comment ils le font. Si c'est un logiciel ouvert, un système d'exploitation ouvert, pour que des gens puissent faire des applications, alors ce sera comme aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, il y en a qui font des applications pour le téléphone mobile de Apple, mais vous l'avez aussi pour les autres, vous voyez, pour Android. Donc, le même développeur, il va développer pour plusieurs systèmes d'exploitation. Si le nôtre est ouvert, pas trop compliqué, ça marchera bien. En plus, comme ce sera le premier système d'exploitation fabriqué pour ces petits objets et pas... Parce que vous savez, le Android et celui d'iPhone, ils descendent des ordinateurs, du tableur, etc. Donc, c'est des systèmes d'exploitation qui n'ont pas été construits pour ces petits objets. Ils viennent de gros objets et on les a descendus. En quelque sorte, on les a simplifiés. Ils ne sont pas très bons. Ni Android, ni celui de OS d'Apple ne sont pas très bons. Donc, si on en construit un spécifiquement pour cette microélectronique qui se retrouve dans une montre ou dans un objet, on est les rois. Je vous garantis, parce qu'il sera conçu pour du low énergie, vous voyez ?
On va en parler de cette low énergie. Alors pour vous, l'enjeu, c'est plus du coup cette autonomie que la protection des données, par exemple ?
La protection des données, c'est un problème général, qui n'a rien à voir avec le système d'exploitation. C'est comment est-ce qu'on veut partager les données ? C'est ça, hein, et ça, c'est quelque chose de très différent.
Donc, c'est plus important que ce soit taillé sur la mesure des montres et des petits objets, que ce soit autonome des grands groupes pour la sécurité de nos données. C'est pas ça le plus important pour vous ?
Le plus important, il faut que ce soit meilleur que les autres. Et s'il est construit à partir des petits objets, il sera forcément meilleur que les autres. Parce que les autres, si vous voulez, Android, c'est une espèce de machin, c'est une usine à gaz. Ils l'ont réécrit 15 000 fois. ils l'ont simplifié, c'est une usine à gaz, ça ne marche pas bien.
On a deux modèles. Donc, on a Tagoyer, la marque suisse également, qui préfère s'associer justement avec Android et Intel. Des deux stratégies entre Swatch et Loxem qui visent un système autonome et 100% suisse. C'est forcément le deuxième choix qui vous semble la solution la plus porteuse d'avenir.
Elle est porteuse d'avenir parce qu'elle est construite sur l'objet petit. Tandis que l'autre, c'est une espèce de descente aux enfers. D'ailleurs, Tagoyer a beaucoup de difficultés avec ce système d'exploitation. Ça ne marche pas bien. C'est compliqué. Vous voyez, c'est comme si vous avez un moteur de camion que vous mettez dans votre deux chevaux. Vous voyez, ça ne marche pas. Et alors donc, il faut construire des moteurs petits pour les deux chevaux. Voilà, c'est ça. C'est simple.
On a parlé tout à l'heure des mises à jour. Alors, Jérôme Moutet, pour le citer encore une fois, a l'air très dubitatif par rapport à ces mises à jour qui nous sont annoncées comme étant rares. Est-ce que vous pensez que ce pari-là, Swatch et Loxem vont pouvoir le remporter ?
Non. Mais il a raison sur le fond, mais il a tort pour l'heure, parce que l'heure n'est absolument pas un problème. L'heure, elle sera donnée par une montre, et dans le fond, l'heure, il n'y a pas besoin de mise à jour, de downloader un nouveau système d'exploitation pour changer l'heure. Ça, c'est stupide. Mais où il a raison, c'est qu'on ne peut pas prétendre qu'un système d'exploitation soit stable, surtout les premières années. Il y aura toujours un trou, toujours une fenêtre pour que des pirates entrent dedans, vous voyez ? Donc, il va falloir nettoyer ça pendant plusieurs années. Et en principe, moi, je n'ai pas vu un seul système d'exploitation ne pas recevoir des modifications régulièrement, plusieurs fois par année. Mais après, si vous voulez, c'est totalement automatique. Vous ne le verrez même pas. C'est un peu comme sur votre iPhone, on vous dit, appuyez sur un bouton, je suis en train de vous envoyer une nouvelle version, vous voyez. Mais là, ce sera, comme c'est des objets, ce sera automatique. On ne lui demandera même pas son avis à l'objet. Il recevra la nouvelle version. Donc, relax. Relax, ce n'est pas un problème.
Xavier Comtesse, pour conclure, le Swatch Group et le Loxem ne comptent pas s'arrêter là. Ils annoncent de futures applications à basse consommation d'énergie. Là, toujours cette volonté de faire du low batterie, pas besoin de recharger perpétuellement son objet. Ça, c'est vraiment un point fort, justement, de cette alliance entre Swatch et le Loxem, dont est actionnaire Swatch, précisément.
Oui, ça c'est essentiel, parce qu'une des grandes faiblesses de l'Apple Watch, mais aussi des autres objets connectés, c'est qu'ils sont gourmands aujourd'hui en électricité. Alors pourquoi ils sont gourmands ? Parce qu'ils ont justement été dessinés, si vous voulez, avec des systèmes d'exploitation chers, avec des Wi-Fi chers en énergie. Elles sont coûteuses en énergie parce qu'elles pompent beaucoup d'énergie. Donc eux, ils sont en train de repartir de l'objet tout en bas. Ils auront soit des Wi-Fi qui sont extrêmement peu gourmands en électricité. Ça, on sait faire. Et surtout, à Marin, ils ont cette spécialité mondiale. Ils font déjà aujourd'hui des chips, comme on dit, donc de l'électronique pour le monde entier. Donc en partant de ça, c'est une vision tout à fait gagnante, tout à fait gagnante.
Merci infiniment Xavier Comtesse de nous avoir permis de voir un peu mieux les enjeux de ce que va sortir le Swatch Group et le Centre Suisse d'électronique et de microtechnique. On se réjouit de vous entendre à nouveau quand on en saura plus, quand on l'aura peut-être testé ensemble. Oui. Et on vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.
Merci à vous.
Place publique.
Encore 1,5 million de francs à trouver et les trois coups vont retentir sur la scène du tout nouveau théâtre du Jura, prévu pour septembre 2020 à Delémont. Les promoteurs du projet ont jusqu'à la fin de l'année pour réunir ces montants. Au total, la part du financement privé doit s'élever à 8 millions de francs pour que le canton du Jura en débloque 14 autres. Voilà pour les chiffres. Et pour mieux rassurer les futurs sponsors, les investisseurs, eh bien les autorités cantonales ont donné leur feu vert cette semaine pour la construction du bâtiment. Alors, comment motiver les investisseurs à mettre de l'argent pour un théâtre ? Pour quelle contrepartie ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'indépendance des choix artistiques ? On en parle avec vous, Jacques Gigax. Bonsoir. Alors, vous présidez la Fondation pour le Théâtre du Jura. C'est vous qui êtes à la manœuvre pour collecter les fonds. Alors, au niveau privé, jusqu'à présent, quel type de sponsors se sont engagés pour le Théâtre du Jura ?
Alors, on s'est intéressé, puisque l'objectif était de réunir 8 millions, c'est une gageure, c'était pas gagné d'avance. Donc, on s'est intéressé à on appelle des grands contributeurs, des mécènes, des industriels, mais aussi des fondations, parce que là, évidemment, dans le domaine culturel, on peut compter sur des fondations qui ont pour vocation de soutenir de telles démarches. Donc, on a ciblé nos contacts. Très intéressant, les retours, je pourrais vous en parler.
Et quel type d'acteurs ? C'est des fondations, des entreprises, majoritairement ? Des mécènes privés ?
Alors, des mécènes, oui. Ce qui est intéressant, c'est que certains mécènes souhaitent rester anonymes. Alors, tout l'enjeu, quand on parle d'investissement, peut-être en visibilité, en notoriété ou en reconnaissance, alors là, certaines fondations, certains mécènes tiennent à rester anonymes. Donc, c'est une démarche personnelle qui est motivée peut-être par la vision, alors la portée du projet, un théâtre, hein, quand même une portée symbolique, une scène, mais aussi de s'associer à ce projet de développement alors d'un canton, d'une ville, parce que le projet dépasse le théâtre, puisqu'il y a un projet de nouveau quartier créé à Outhique, on va en parler. Alors, il y a la double démarche. Il y a le mécénat à fond perdu, anonyme par conviction, mais bien entendu, vous avez aussi des entrepreneurs ou peut-être des personnes qui souhaitent apparaître. Où là, il y a une arrière-pensée peut-être de visibilité ou de notoriété, de dire on veut s'associer, mais en termes d'image ou en termes de retombées. Et on va parler aussi alors, sur les contreparties ou ce qu'on attend ou l'indépendance finalement de la scène. On peut en parler.
Très bien, ben, c'est justement au menu de notre discussion. Peut-être pour qu'on réalise un peu mieux ce qu'il vous reste à faire, on dit qu'il reste 10 mois avant la fin de l'année pour récolter 1,5 million de francs, soit 300 jours, grosso modo. Alors, ça représente 5 000 francs par jour. Quelle est votre stratégie? Privilégier de grands donateurs ou peu importe alors, le montant, les petits ruisseaux font les grandes rivières?
Oui, toujours. Alors, peut-être une petite pirouette, coïncidence. On a constitué la Fondation pour le Théâtre du Jura, donc, qui va construire et exploiter ce théâtre, le 10 février 2016, donc un an jour pour jour après cette échéance, on a réuni 6,5 millions de francs de fonds privés, de fonds tiers, 80% de l'objectif. Donc on peut dire quand même qu'on a accompli une grande partie du chemin. Donc d'ailleurs, beaucoup de gens étaient sceptiques. Donc c'est vrai qu'on a vraiment acquis avec ces 6,5 millions, donc ces fameux 80% qui ont déclenché cette décision du gouvernement, ce feu vert de principe de nous faire confiance.
Donc le plus dur est fait.
Alors, voilà. Alors, j'employais cette formule tennistique, on a fait le break. Mais pour conclure, il faut monter au filet, il faut marquer le dernier point. Alors, c'est vrai, ce 1,5 million, c'est à la fois peu et beaucoup. J'en suis conscient parce que j'étais ou je suis à la manœuvre avec mes collègues du conseil de fondation. Alors, on a des pistes. Hein.
Alors, un mot quand même sur ce projet qui est, vous l'avez dit, lié à un projet de construction de logements et d'un centre commercial avec à la tête de gros acteurs des domaines respectifs, l'entreprise HRS et la Coop. Alors, autant dire que ces deux acteurs ont intérêt à ce que le théâtre voit le jour, sinon le projet est enterré. Est-ce que là, il n'y a pas un levier pour trouver l'argent manquant?
Oui, alors évidemment, on est en contact avec les promoteurs. C'est intéressant parce que ces démarches privées-publiques, en général, on les associe à des stades de foot ou des patinoires comme Tissot Arena ou autre. Alors ici, la particularité, c'est qu'on parle d'un théâtre. Mais c'est ça, donc on parle d'un projet global à 100 millions de francs suisses, un hectare, un nouveau quartier donc qui va transformer la ville de Dlémont. Mais sur ces 100 millions, le théâtre représente 24 millions, ce théâtre cantonal, hein, donc qui sera un projet phare du canton. Donc on est dans un enjeu qui dépasse le théâtre, mais la particularité du montage, c'est que tout dépend de la réalisation du théâtre. Donc en clair, si on ne finance pas le théâtre, mais on est bien parti, alors l'ensemble du projet caduque.
Voilà.
Donc voilà. Donc
on l'a bien compris. Il y a une possibilité. Alors il y en a un qui croit dur comme fer, Jacques Guigax, à la viabilité du projet du théâtre du Jura. C'est le directeur du théâtre du Passage à Neuchâtel, une institution qui vit sa 17e année et qui se porte comme un charme. Ça devrait vous rassurer. Son directeur, le comédien Robert Bouvier, qu'on a joint cet après-midi entre deux répétitions à Avignon, est convaincu que la culture rapporte économiquement. Il nous décrit aussi le lien établi entre son institution et les sponsors.
À Neuchâtel, depuis que le théâtre du Passage existe, que ce soit des constructeurs, des fournisseurs, bien sûr tout le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, tous les emplois que nous avons pu créer, on est vraiment une source importante de revenus pour la région. Et c'est pourquoi régulièrement la promotion économique m'invite à rencontrer les personnes qui désirent s'installer dans le canton. Je sais que je joue un rôle non négligeable dans l'attractivité que notre canton peut exercer.
Alors on comprend bien l'intérêt d'une collectivité ou de collectivités à investir pour un théâtre, parce que vous le démontrez, ça participe à un certain essor, même économique, d'une région. Mais quel intérêt pour les privés d'investir? Quel retour sur investissement des entreprises privées peuvent en attendre?
On croit à la culture, on croit à ses bienfaits, on croit à ce qu'elle peut apporter à l'humanité. On fait un grand travail avec les écoles. C'est une responsabilité, une morale, je dirais presque, qui nous pousse à croire en la culture. Nous avons la chance d'avoir régulièrement des banques, des fiduciaires, des sociétés privées qui organisent des soirées pendant lesquelles les invités peuvent découvrir des spectacles, avoir des émotions, se poser des questions. Un privé qui investit dans la culture montre qu'il n'est pas dénué d'émotions, qu'il n'a pas peur de se poser des questions, même qui dérangent parfois, montre qu'il est vivant. Et c'est une façon de partager avec ses clients. Nous avons non seulement dans le programme de notre théâtre de nombreuses annonces, même d'horlogers, de librairies, etc., des publicités, mais nous avons aussi beaucoup de privés qui organisent des soirées dans notre théâtre.
Et pour les privés qui souhaiteraient avoir un retour sur investissement en termes d'image, par exemple, jusqu'où peut-on aller lorsqu'on est un théâtre? Est-ce qu'on peut, par exemple, baptiser le théâtre comme on le fait pour les stades de foot ou les patinoires, au nom du sponsor principal? Est-ce qu'on peut vendre les fauteuils? Enfin, jusqu'où un théâtre peut se mettre à nu pour ses financiers, pour ses sponsors?
Je pense qu'un sponsor a l'intelligence de ne pas justement imaginer la culture simplement comme un produit, même s'il est avéré que c'est un produit. Culture égale aussi liberté d'opinion, liberté de rêverie. Nous, on s'appelle le théâtre du passage. On a eu un grand supermarché qui nous a beaucoup aidé dans les premières années. Dans la tête peut-être des spectateurs, on était liés à ce magasin, mais sans qu'on soit estampillé. Un théâtre doit être ouvert à tous et ne pas avoir de couleur politique, ne pas avoir la couleur d'un seul sponsor. Ceci dit, c'est justement la maison de la population, la maison du peuple, et je crois qu'un sponsor a tout intérêt de participer à tout ce qu'apporte un théâtre à une région. Et je reparle encore des écoles, parce qu'on fait un gros travail de médiation et on participe d'une certaine façon à l'éducation des jeunes.
Robert Bouvier, directeur du théâtre du Passage à Neuchâtel. Alors Jacques Guigax, on vous retrouve. Le temps file, donc il va falloir répondre assez rapidement. Mais la question est importante. On vous la reposera si on n'a pas le temps de vous entendre. Mais est-ce que vous seriez prêt, vous, à vendre le nom du théâtre à un sponsor qui mettrait de l'argent sur la table? Vous m'aviez confié que ça pouvait, par exemple, être estimé à 1 million de francs.
Oui, à condition qu'il ait l'intelligence, la sensibilité de trouver un nom qui parle. Mais j'ai rien ajouté à ce témoignage qui est percutant. Quoique la différence, on vend de l'émotion, on vend pas un produit. Et les gens sont en manque d'émotion. C'est tout l'intérêt d'une telle démarche. Et j'ai lu récemment une étude de la Haute École de Gesson Arc qui confirmait que vous investissez 1 franc dans la culture, il y a des retombées, des dépenses. C'est 1 franc, 1 est à 3, 3, 4 francs de retombée, souvent dans la région. Moi, je suis assez convaincu par cette démarche. Non, le nom, oui, mais à condition d'avoir, alors la sensibilité, ça ne sera pas une marque, on peut en parler.
Donc ce théâtre n'aura pas le nom d'un investisseur réputé du Jura, un jour, vous l'excluez?
Non, je ne l'exclus pas, mais on y veillera particulièrement. Le nom a vraiment, il y a une importance primordiale.
Merci en tous les cas, Jacques Guigax, d'être venu nous parler donc de cette récolte de fonds pour le théâtre du Jura. On suit évidemment tout ça de près. On vous souhaite une bonne suite de soirée, un excellent week-end.
Merci.
Au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
Et c'est tout pour Place Publique. Vous nous retrouvez évidemment sur nos sites web RTN, RFJ, RJB.ch. À la semaine prochaine.
Place Publique.